Il est 15h10 à Paris, 9h10 à Port-au-Prince, l'heure de retrouver le journal d'Haïti et des Amériques avec aujourd'hui Mayol de Charon. Bonjour Mayol.
Bonjour Léonard et bonjour à tous. Et à la une, une délégation de la CARICOM, organisation régionale des Caraïbes, attendue en Haïti ce lundi pour trouver un accord politique. Elle, les opposants au gouvernement d'Ariel Henry, dénonce le manque de réponse étatique face à l'avancée des gangs. Dans ce journal également, le tribunal suprême électoral du Guatemala suspend temporairement la disqualification du parti Semilla, celui du président élu le 31 août dernier, Bernardo Arevalo. Et des millions de personnes sont descendues dans les rues ce week-end pour le soutenir. Les conséquences du réchauffement climatique en Bolivie, le lac Titicaca est à sec depuis la fin du mois de juillet. De nombreux secteurs sont en souffrance. Reportage à la fin de ce journal. Le journal de l'Outre-mer est lui présenté aujourd'hui par Benoît Ferrand. Et Benoît à la une, une possible guerre du créole à l'école en Martinique. Benoît Ferrand que nous retrouverons à la fin de ce journal.
RFI à Port-au-Prince. 89.3 FM.
Une délégation de la CARICOM arrive donc ce lundi à Port-au-Prince. Pour en parler, Stéphanie Schuller nous a rejoint en studio. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Mayel.
Et c'est donc une ultime tentative des médiateurs de cette organisation régionale des Caraïbes pour obtenir un accord entre les acteurs politiques en Haïti.
Oui, le Nouvelliste rappelle aujourd'hui que cette visite de la CARICOM intervient dans un contexte de mobilisation sur la scène internationale pour trouver une solution à la crise sécuritaire. Si le secrétaire général de l'ONU, les États-Unis, l'Équateur ou encore le Canada propose l'envoi d'une force internationale de maintien de la paix. Il souhaite néanmoins un accord politique. Cette médiation est la suite des négociations qui se sont tenues en juin en Jamaïque, sans avancée notable. Selon le Nouvelliste, deux blocs continuent à se faire face. D'un côté, le gouvernement d'Ariel Henry et ses alliés. De l'autre, ses opposants, dont les signataires de l'accord de Montana. Jacques Tête Syndic en fait partie. Il assure que son groupe est prêt à participer au dialogue, mais se dit guère optimiste.
Les gangs, les gens armés occupent de plus en plus d'espace géographique. Il y a beaucoup plus de morts, plus d'assassinats, il y a beaucoup plus de kidnappings et en même temps, il n'y a aucune réponse étatique, aucune réponse du gouvernement face à cette situation-là. Même pas un communiqué de presse disant que le pouvoir prend en compte la situation ou que le pouvoir annonce, je ne sais pas, des mesures pour sortir de là, mais au contraire, c'est le silence complet et les avancées des gangs se précisent chaque jour. On doit devoir pouvoir dire à comment sortir de là. Donc il faut casser le cercle, il faut privilégier la vie des Haïtiens et il faut privilégier l'intérêt national. Et dans ce cadre-là, certainement, il y a moyen de discuter si les honorables délégués de la CARICOM accepteraient de comprendre qu'il ne faut pas venir simplement dans l'idée de réconforter le pouvoir, de garder M. Ariel Henry au pouvoir et de laisser le pays souffrir et de laisser le pays dans cette situation d'insécurité totale.
Jacques Tête Syndic répondait à Abla Jounaïdi. Et puisqu'on parle de l'insécurité totale qui règne à Port-au-Prince et ses environs, je me permets de vous renvoyer sur le site d'information Haïbo Post. Deux de ses photojournalistes, David Lorenz Menzor et Jean Fegens Regal, ont pris le risque de photographier les zones sous l'emprise des gangs. Ces images rares permettent une plongée visuelle dans la réalité de la capitale haïtienne.
Merci Stéphanie, on vous retrouve dans un instant. Eux sont entre 500 000 et 700 000. Les Haïtiens vivant en République dominicaine vivent dans la peur, en situation régulière ou non. Ils craignent d'être arrêtés par la police ou les services de migration. Ces dernières années, une politique du chiffre est assumée par le gouvernement. Il faut renvoyer un maximum d'Haïtiens à la frontière. Ils forment une main-d'œuvre importante dans le pays, notamment dans le tourisme et la construction. Mais le discours xénophobe se répand chez les politiques et dans la population. Comment vit-on au quotidien dans un univers aussi hostile, c'est le reportage d'Alice Campagnole.
La vie est un pays dur en Haïti, c'est pourquoi. Je vais ici comme un étranger, malgré un travail dur, mais on est obligé, on n'a pas le choix.
Mets ton doigt là, n'appuie pas.
Pour payer le loyer, acheter la nourriture, payer l'électricité.
Ce matin, Simon Jean est venu tôt au centre de santé Mosta pour une prise de sang avant de se rendre au travail.
Je travaille comme vendeur dans un magasin. Ils vendent presque tout par construction.
Je dois aller travailler.
Merci, ciao.
La majorité des Haïtiens en République dominicaine travaillent dans les secteurs de la construction, du tourisme et également dans l'agriculture, où ils représentent 90% de la main-d'œuvre, des travailleurs essentiels. Joseph Chérubin est haïtien, il est directeur du centre de santé Mosta qui accueille principalement des gens d'origine d'Haïti, s'adaptant ainsi à leurs besoins.
Les Haïtiens sont très travailleurs et apportent beaucoup au développement économique et social du pays. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce monde, car les grands chantiers se font grâce aux migrants, et pas seulement en République dominicaine. Ici, par exemple, ils ont construit le métro, et le directeur lui-même l'avait dit. Monsieur le Président, si vous voulez que les travaux continuent, alors il ne faut pas expulser tous les Haïtiens.
Malgré leur importance dans l'économie dominicaine aujourd'hui, de ce côté de l'île, les Haïtiens, avec ou sans papier, vivent dans la peur des expulsions, les reconduites à la frontière sont quotidiennes, sans que les protocoles légaux ne soient respectés. Siméon Sévillier est travailleur agricole.
Un jour, je suis sorti, pas très loin de chez moi. Moi, j'ai mes papiers à jour, ma femme aussi. Il y avait le camion de la migration. Ils m'ont dit « monte ». Mais j'ai répondu que j'avais ma carte d'identité. Ils m'ont dit « monte, on verra plus tard ». Et ils m'ont emmené jusqu'à la frontière. Il a fallu que je fasse tout le chemin retour. Ou par exemple, pour vous dire tout le mal qu'ils font, un jour à 4h du matin, je dormais. Ils ont défoncé ma porte.
Cette atmosphère de persécution dissuade les migrants de tout simplement sortir de chez eux. Beaucoup vivent cloîtrés et une fois à l'hôpital, ils peuvent également vivre des discriminations, comme l'explique la médecin Crodita Pierre.
Il y a des discriminations, par exemple, un migrant arrive en premier à la consultation, mais le personnel reçoit les autres patients d'abord, et cela pour la seule raison que c'est un migrant. En général, les migrants sont en permanence en mouvement, ils ne peuvent pas attendre longtemps. Rien qu'avec le travail, s'ils ne se présentent pas à l'heure, il est possible qu'à leur retour, ils n'aient tout simplement plus d'emploi. Et puis, il y a aussi la barrière de la langue. Ici, l'avantage, c'est que moi, je parle créole.
Des cas de femmes enceintes, parfois de 8-9 mois, expulsées, ont indigné le monde entier ces dernières années. Si être haïtien est difficile en République dominicaine, être haïtienne l'est peut-être d'autant plus, peu importe la condition sociale, comme le raconte Rose, qui a vécu de multiples agressions.
La République dominicaine, j'ai toujours su que les Haïtiens ne sont pas les bienvenus. Mais avant d'avoir vécu ici, dans ma tête, c'était que c'était des Haïtiens qui n'avaient pas de papier. Une fois que je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus que ça. Tu peux être haïtien, être légal, mais tu ne peux pas être plus qu'une femme de ménage ou une prostituée.
Malgré toutes les atteintes aux droits des Haïtiens en République dominicaine, face à leur état failli, aucune institution ne prend leur défense. Alice Campagnol, de retour de Saint-Domingue, RFI.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Des manifestations ce week-end au Guatemala. Stéphanie, on vous retrouve. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour soutenir leur président élu.
Oui, le social-démocrate Bernardo Arevalo avait dénoncé un coup d'État institutionnel. Vendredi, une sous-section du tribunal suprême électoral avait suspendu à la demande de procureurs le parti du Bernardo Arevalo Semilla pour des supposées irrégularités au moment de sa création en 2017. Appelle El País. Le président élu, qui doit sa large victoire notamment à son programme anticorruption, avait accusé des hauts fonctionnaires dans l'appareil judiciaire et autres institutions de tout faire pour l'empêcher d'accéder à la présidence en janvier prochain, écrit le journal, avis partagé par cette manifestante guatémaltèque.
Nous voulons que notre décision soit respectée. En tant que citoyens guatémaltèques, nous attendons un véritable changement. C'est un coup d'État qui est en train de se produire. Nous savons qu'ils ne sont pas d'accord, ils ont peur que cela change et qu'ils ne puissent plus voler.
Et Stéphanie, c'est dans ce contexte tendu que le tribunal suprême électoral a finalement temporairement levé hier soir la disqualification du parti Semilla.
Oui, pour l'autorité électorale, Bernardo Arevalo et sa vice-présidente doivent assumer leurs fonctions à partir du 14 janvier 2024 afin de garantir la démocratie selon la volonté du peuple guatémaltèque, rapporte La Hora. Le quotidien Prensa Libre se félicite de ce volte-face du tribunal suprême électoral, mais reste sur ses gardes. La communauté communauté internationale nous a à l'œil. Toute manœuvre juridique qui porte un coup à nos institutions est inacceptable et constitue un délit. Mais l'éditorialiste estime aussi que les agissements contre Bernardo Arévalo ternissent l'image de la fiabilité du Guatemala pour des investisseurs étrangers. Le pays en a pourtant besoin pour sortir de la pauvreté. Et Prensa Libre de conclure... Tout fonctionnaire dont l'étroitesse d'esprit porte atteinte à la démocratie doit être tenu pour responsable.
Au Mexique, c'est officiel, à l'élection présidentielle de l'année prochaine, l'opposition sera représentée par une candidate unique, la sénatrice de droite Xochitl Gálvez.
Cette chef d'entreprise d'origine indigène, âgée de 60 ans, a promis l'unité du Frente Amplio, la coalition des trois principaux partis d'opposition, et a annoncé ce que sera la maxime de son éventuel gouvernement, ne pas diviser, ne pas offenser et ne pas tromper le peuple, écrit El Universal. Adepte du franc parler, Xochitl Gálvez a réaffirmé que si elle remportait la présidence, il n'y aurait, je cite, hein, c'est pas mes mots, ni idiot, ni rat, ni trou du cul dans son cabinet. Le journal Milenio rapporte des scènes de joie dans plusieurs villes du pays à l'officialisation de la candidature de Xochitl Gálvez. Cette femme qui a réussi la prouesse de réveiller une opposition mal en point après 5 années passées sous le règne du président sortant Andrés Manuel López Obrador et de son parti Morena.
Et justement, Morena aussi tient ses primaires en ce moment.
Et là encore, c'est une femme qui pourrait bien remporter la mise. Il s'agit de l'ancienne maire de Mexico, Claudia Sheinbaum. Le résultat des primaires de Morena sera connu ce mercredi, rappelle le quotidien República.
Et pour finir cette revue de presse, direction maintenant les États-Unis, Stéphanie, où les autorités s'inquiètent des décès dus à la chaleur extrême.
En 2022, 1670 personnes sont mortes en raison de la chaleur, le taux le plus élevé depuis au moins 2 décennies, rapporte le Los Angeles Times. Les données de cette année, qui a été exceptionnellement chaude dans une grande partie du pays, ne sont pas encore disponibles, mais déjà on craint le pire. Le journal Arizona Republic, dans l'Arizona donc, tire également la sonnette d'alarme. Dans cet état désertique du Sud, les travailleurs agricoles risquent leur vie. Ils n'ont pas droit à des pauses rémunérées pour se mettre à l'ombre et pour s'hydrater. Syndicats et plusieurs élus appellent à un changement urgent de la loi du travail.
Ah, c'était Stéphanie Schuller pour la revue de presse des Amériques. Merci Stéphanie.
RFI à La Paz, 106.9 FM.
Les conséquences du réchauffement climatique se mesurent aussi en Bolivie. Depuis la fin du mois de juillet, le lac Titicaca est en alerte sécheresse. Agriculture, élevage, tourisme, pêche, de nombreux secteurs sont touchés. La situation affecte les populations vivant sur les rives de ce lac situé à 3800 mètres d'altitude. Écoutez le reportage de Nils Sabin.
La sécheresse frappe fort au lac Titicaca. Depuis 2 ans, les précipitations qui remplissent le lac entre décembre et mars sont plus faibles que d'habitude. Résultat, le niveau est extrêmement bas et les populations locales souffrent. Exemple avec Juan, la vingtaine, qui élève des vaches à Huarina, au sud-est du lac.
Il n'y a plus d'eau pour les vaches. Comme c'est en train de s'assécher, le lac est plus loin et c'est plus compliqué d'abreuver les vaches.
À Huarina, l'herbe est complètement brûlée par le soleil et le lac se trouve maintenant à plus d'une demi-heure de marche. Deux solutions pour Juan: aller jusqu'au lac avec ses vaches ou alors remettre en état les canaux à sec qui amènent l'eau à proximité de sa maison.
Il faudrait qu'on creuse avec des tracteurs, mais ça coûte plus de 25 euros par heure. En une heure, si tu te débrouilles bien, tu peux faire revenir l'eau, mais cette année, comme c'est très sec, ça demande plus de temps.
À présent, direction Copacabana, 80 km de là, il s'agit du principal centre touristique bolivien donnant sur le lac Titicaca. On y rencontre Silverio qui, comme beaucoup de monde ici, travaille dans le secteur touristique.
Nous sommes inquiets parce que cette année, le niveau de l'eau baisse beaucoup trop. J'ai 64 ans, je travaille ici depuis que j'ai 8 ans et je n'ai jamais vu ça.
Ici, le lac n'a pas reculé, mais la baisse de son niveau rend certaines zones inaccessibles.
Par exemple, là-bas, le niveau est très bas. Il est impossible de sortir avec des petits bateaux sportifs.
Pour l'ancien, cette sécheresse est une sorte de punition pour ne pas prendre soin du lac. Et selon lui, le futur pourrait être bien pire.
Nous ne faisons pas attention à l'environnement. C'est pour ça que je dis que la nature va faire partir tous les habitants qui vivent autour du lac Titicaca.
Après la pandémie, puis la crise politique au Pérou, cette sécheresse est un nouveau coup dur pour le tourisme local. Les activités de pêche sont aussi fortement touchées. À plusieurs kilomètres du centre-ville se trouve la communauté de Saouigna qui compte deux associations de pêcheurs. En descendant jusqu'à la rive, il est possible d'apercevoir quelques petits bateaux à moteur et 3 dizaines de caches flottantes utilisées pour la pisciculture. Edgar nous emmène avec son bateau au milieu des roseaux pour nous expliquer les conséquences de la sécheresse.
Aïe!
C'est ici que se reproduisent les espèces sauvages. Elles laissent leurs œufs à la base de ces roseaux, donc avec la sécheresse, où vont-elles pondre?
Pour le pêcheur, ces espèces sauvages sont presque condamnées. La surpêche a réduit leur nombre, et maintenant la sécheresse les empêche de se reproduire. Le futur se trouverait donc dans la pisciculture, et principalement l'élevage de truites.
Là, voici les poissons. Ceux-ci font 2 kilos.
Mais même cette activité est affectée par la sécheresse. Comme l'expliquait Edgar, les cages ne peuvent pas accueillir trop de poissons.
Si les truites font 2 kilos, tu ne peux pas en mettre 500 dans une cage. Sinon, elles vont mourir avec la chaleur et le manque d'oxygène. Par exemple, dans celle-ci, il y a 120 truites en ce moment. On ne peut pas en mettre plus. Enfin, on pourrait, mais elles mourraient.
Selon le Service national d'hydrographie navale de l'armée qui a lancé l'alerte sécheresse, celle-ci devrait durer jusqu'à fin novembre. Dans les prochains jours ou les prochaines semaines, il est très probable que le minimum historique du lac de 1998 soit dépassé. Il ne reste plus qu'à espérer que les pluies estivales de fin d'année soient au rendez-vous dans l'Altiplano. Dans le cas contraire, la sécheresse continuerait au moins une année de plus. Nils Sabin sur les rives du lac Titicaca, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Et nous retrouvons Benoît Ferrand pour ce journal de l'Outre-mer. Et en ce jour de rentrée, cette question à la une, la guerre du créole à l'école va-t-elle s'ouvrir en Martinique, Benoît ?
Eh bien, c'est une bonne question, même si on ne peut pas bien sûr parler de véritablement de guerre. L'enseignement du créole est d'ailleurs déjà une réalité dans les écoles antillaises, mais la collectivité territoriale de la Martinique souhaite désormais rendre cet apprentissage obligatoire, ce qui n'est pas encore gagné. Jean-Marc Parti.
Aujourd'hui, environ 3000 collégiens et lycéens sur 35 000 suivent une option de langue créole. Depuis 2008, ces cours sont dispensés par 600 professeurs habilités par le rectorat à l'issue d'une formation spécifique ou alors titulaires du CAPES. L'élève doit obtenir l'accord de ses parents pour s'inscrire à cette discipline. Mais voilà, la CTM veut aller plus loin en supprimant le caractère optionnel de l'apprentissage du créole et en créole. Et ceci alors que selon l'INSEE, 82% de la population martiniquaise pratique cette langue tous les jours, à la maison, au travail ou entre amis. Une pratique qui n'empêche pas notre langue d'être menacée, selon les linguistes de l'Université des Antilles. Ils proposent un apprentissage obligatoire de 2 heures par semaine, de la maternelle à la classe de 3e. Nous n'y sommes pas encore, c'est vrai, mais la réflexion est bien engagée pour trouver le meilleur compromis sur un sujet sensible.
Direction la Guadeloupe avec ses 5 nouveaux magistrats, 5 jeunes tout juste sortis de l'école de la magistrature. Ils ont prêté serment la semaine dernière devant le président de la cour d'appel de Basse-Terre et le procureur général Éric Morel. Pour ce dernier, un premier poste de magistrat en Guadeloupe, c'est un atout. Il s'en explique au micro de Ronan Ponet.
C'est un beau territoire pour forger des magistrats. Moi, je suis heureux que la Guadeloupe ait de l'attractivité pour les jeunes magistrats qui sortent d'école, puisqu'en l'espèce, il s'agit de magistrats qui sortent de l'école. Comme vous le savez, nous travaillons à faire en sorte que des jeunes étudiants guadeloupéens puissent se présenter et réussir les épreuves du concours de la magistrature, de façon à ce qu'on ait aussi beaucoup plus au sein des juges et des procureurs en Guadeloupe qui soient originaires de cette île. Je souligne d'ailleurs que dans les 5 nouveaux juges qui nous rejoignent, l'une d'entre elles est d'origine guadeloupéenne. Je leur souhaite une très belle carrière. Ils ont déjà la chance d'être juges, ce qui est déjà en soi un très beau métier. Ensuite, en fonction de leur désir, certains pourront rester en Guadeloupe. Nous connaissons des magistrats qui ont fait plus de 20 ans de carrière en Guadeloupe, ce qui démontre aussi l'investissement de certains magistrats. Ils pourront repartir vers d'autres territoires d'outre-mer ou en métropole sur de nouvelles fonctions. En fait, la magistrature compte de très nombreux métiers et que ce qui est assez exceptionnel dans cette profession, c'est que l'on peut dérouler toute une carrière en faisant différents métiers.
Bon après-midi, Mayeul. À demain.
Merci Benoît Ferrand et à demain. C'est donc la fin de cette édition du Journal d'Haïti et des Amériques. Vous pouvez le retrouver sur internet www.rfi.fr ou encore sur les plateformes de podcast. On se retrouve donc demain à 13h10, temps universel, 15h10, heure de Paris.